flots de métal. Je navigue aveugle sous une pluie de limaille.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va?
Toi qui nous écoutes depuis ton canapé, ton lit, ta voiture ou je ne sais où, c'est toujours Radio Canut, toujours au 102.2. Et après ce long trip obscur de Dead Moon Night, c'est l'heure donc de la causerie comme tous les dimanches de 22 à 23.
Ouais.
Et ce soir dans les studios, nous avons Clara la technique.
Hello.
Nous avons Fab aussi.
Bonsoir, bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir. Et donc, avant de faire comme à notre habitude, hein, de causer donc, on va vous rappeler aussi comme à notre habitude, comment nous joindre. Donc, si vous voulez nous envoyer un mail, n'hésitez surtout pas. C'est lacauseriecanu@gmail.com. La causerie canu, tout attaché, en minuscule, enfin voilà. Tout à la suite, lacauseriecanu@gmail.com. Vous retrouvez tous les podcasts sur le blog de l'émission. C'est à blogs, donc au pluriel, blogs.radiocanu.org/lacauserie.
Et oui, c'est ça.
Et vous nous trouvez aussi sur des réseaux, alors principalement un réseau socio-commercial de marque Z, et aussi sur des plateformes d'écoute musicale, etc. Si vous tapez La Causerie Canu, vous devriez nous retrouver.
Tout à fait.
Toujours La Causerie Canu, évidemment.
Et moi, j'en profite juste comme ça, parce que j'ai envie, pour faire un petit coucou à Muteki Canu, voilà, l'émission japonaise, parce que comme, ouais, je ne veux rien cacher, j'étais à la Japan Dutch aujourd'hui, ça m'a donné envie de saluer. Et puis aussi JK Music Station, qui a lieu tous les un dimanche sur deux sur Radio Canu. Voilà.
C'est ça.
Un peu de culture japonaise sur les ondes.
Tout
de Radio
à fait,
Canu.
Musicalité.
Voilà.
Eh bien, je crois qu'on a rappelé absolument toutes les petites infos comme ça. Et c'est donc Fab qui prend le crachoir.
Ben c'est ça, ouais, c'est moi.
Et il va nous causer.
Ouais, je vais vous parler en fait. Je vais pas vous être joyeux ce soir, hein, pardon. Bon, c'est rare, je suis joyeux quand même en même temps. On va le dire. Non, en fait, je voulais vous parler un petit peu de ce qu'on oublie un petit peu dans tout ce qui est la santé et ce qui se passe autour de la santé en ce moment. Parce que bon, on sait qu'en ce moment c'est un peu Covid party, hein. Voilà, on a tous bien remarqué. Cinquième vague sur l'Europe, et ça nous prend beaucoup de temps et de moyens, évidemment, médicaux. Et c'est justement les conséquences de ça dont moi je voulais vous parler ce soir. Il y a beaucoup de médecins et de spécialistes de la santé, notamment de virologues et autres, qui tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme. Parce qu'au-delà de la pandémie, une autre semble se mettre en place pour eux, c'est celle liée aux moyens insuffisants dans le système hospitalier en général. Et au niveau mondial, hein, attention, parce que là, je vous rappelle qu'à la causerie, on a un peu du mal avec les frontières, donc on parle souvent plutôt mondialement que de parler uniquement de la France. Il ne s'agit pas de nier que la gestion des hôpitaux et de la santé dans le monde, que ce soit dans les pays riches ou les pays pauvres, n'est pas à la hauteur des besoins depuis des années. Hein. C'est pas du tout mon propos, c'est pas de dire non, c'est pas vrai. C'est un fait, c'est comme ça. Ni de nier d'ailleurs que plus de moyens auraient pu et auraient dû être mis en place pour les populations, et ce, Covid ou pas.
Voilà. Oui, c'est ça. Peut-être que tu le dis plus loin, mais ça date pas, encore une fois,
c'est
du
vieux,
dernier président. C'est-à-dire, c'est une logique libérale qui est à l'œuvre depuis des dizaines d'années. On peut se souvenir de l'hôpital entreprise d'une certaine Roselyne Bachelot.
Mais comme je disais, c'est pareil partout dans le monde. C'est-à-dire que partout dans le monde, le système hospitalier a été transformé en entreprise, en usine, ce qu'il n'est pas, je rappelle.
Mais parce que la logique libérale est absolument partout. C'est-à-dire que, franchement, il y a par la Chine, pardon, et Cuba, pardon, j'arrête pas de rire ce soir. Il y a cette logique, effectivement, de privatisation.
Alors en Chine aussi.
Soin, mais oui.
Non, mais justement, parce que le dernier endroit peut-être au monde où justement la santé est entièrement gratuite, ça reste Cuba, mais avec des moyens forcément très faibles du fait de l'embargo américain notamment. Mais clairement, partout dans le monde, y compris en Chine, on a un système qui s'est mis dans le capitalisme avec des cliniques privées, avec tout ça et tout. Et on a aussi en fait un système public qui est affaibli et amoindri. Donc voilà. Mais en fait, qu'il y ait plus de moyens ou non, en fait, la pression que met le virus du Covid au niveau mondial sur le système hospitalier est énorme et aurait été énorme. Et c'est un peu ce que disent ces spécialistes, c'est qu'ils disent oui, on pourrait dire que ça aurait résolu une partie du problème, mais elle aurait été à la limite, à la marge, parce que voilà, le nombre de les besoins sont tellement grands que de toute façon, il aurait fallu construire ce qui s'appelle, ils disaient, des hôpitaux 10 fois, 15 fois, voire 100 fois plus grands dans certaines régions du monde. Et c'est pas possible, tout simplement parce qu'on manque un truc tout bête, c'est de médecins, d'infirmiers et d'aides-soignantes. Donc, conséquence en fait, du trop-plein de ces systèmes de santé, c'est ce qui est en fait un peu alarmant en ce moment, c'est que donc plusieurs groupes d'experts arrivent à une conclusion et qui est la même, c'est que le Covid risque de tuer autant directement qu'indirectement. Alors je vais essayer d'expliquer un petit peu ça. On l'entend de plus en plus d'ailleurs à la télé ou à la radio ou ailleurs, je sais pas où, mais je vois pas. Au cinéma, non, ça marche pas.
Sur Internet.
Sur Internet. En fait, c'est une donnée qui commence à être un peu mise à jour et en public. Alors je vais m'expliquer. Donc en saturant en fait le système de santé dans le monde et en particulier dans les pays les plus pauvres, la pandémie de Covid oblige à déplacer des opérations urgentes, mais aussi en fait des diagnostics ou des recherches de maladies, ou alors carrément à trier des patients. C'est un peu ce qui se produit. Or, dans des cas comme le cancer, ou le paludisme, ou le sida, ou d'autres, décaler en fait le diagnostic, ça peut avoir des conséquences fatales pour les patients. Par exemple, il est estimé aujourd'hui qu'en Europe, alors j'ai pris exprès l'Europe, parce que c'est l'un des continents, paradoxalement, où le suivi médical est le plus poussé, donc où on a des chiffres assez précis. La surmortalité constatée dans les cas de cancer est imputable directement au défaut ou au décalage du diagnostic. Et donc cette hausse, elle est comprise entre 15 et 25% selon les pays. Et en particulier, elle est plus importante dans les pays de l'Est, qui ont eu beaucoup plus de retard à l'allumage par rapport au Covid, que dans les pays de l'Ouest de l'Europe. Mais en tout cas, dans tous les cas, elle se situe entre 15 et 25% de surmortalité. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'auraient clairement pas dû mourir, ou du moins pas maintenant. Voilà, parce qu'on meurt tous un jour, mais ils n'auraient pas dû mourir maintenant. Donc ça représente quand même des milliers de personnes qui auraient pu vivre plus longtemps et qui n'ont malheureusement pas pu être soignées à temps du fait de la saturation des systèmes de santé. Ou aussi des mesures prises pour limiter les risques de contamination au sein de l'hôpital. Parce que ça, c'est un des aspects aujourd'hui qu'on commence à mesurer. C'est qu'on a fermé des services complets en disant on ne peut pas faire rentrer des gens qui ont le Covid. Parce que notamment dans les services d'oncologie, donc liés au cancer, le risque était trop important. Et c'est vrai, faut pas le nier. Sauf que ça a des conséquences derrière sur le fait que du coup, y a des gens qui ne sont pas venus se faire diagnostiquer ou qui n'ont pas passé l'IRM dont ils avaient besoin, des choses comme ça. Ailleurs dans le monde, des épidémies en plus sont venues se croiser au Covid. C'est le cas notamment de la dengue, qui est gentiment a décidé de sortir en même temps que le Covid. Alors je rappelle que la dengue, c'est une maladie qui est transmise par les moustiques et que donc en fait elle est endémique. Souvent elle est dans des régions connues. Et le paradoxe de cette maladie, c'est qu'elle est opportuniste. C'est-à-dire que plus le corps de quelqu'un est affaibli, et plus elle s'installe. Donc Covid, mon amour. Pour la dingue. Donc, ce qui a augmenté encore plus la mortalité générale. En effet, impossible d'hospitaliser les personnes atteintes de la dingue avec celles atteintes de Covid, du coup, parce que vous ne pouvez pas les mettre côte à côte. Mais au-delà de ça, en fait, il y a un autre problème qui se pose. Dans bien des endroits du monde, le manque de matériel, tout simplement, a obligé à choisir entre les personnes atteintes de la dingue et les personnes atteintes du Covid. tout simplement. C'est qu'il a fallu trier et dire, bon ben, qui on met sous respirateur. Tout simplement parce qu'en fait, quand vous avez la dengue en, sous phase, qui atteint vraiment le système et qui est
virulente,
voilà, merci de chercher le mot, ou le Covid virulent, et ben en fait, vous avez besoin de la même chose, c'est-à-dire d'être branché à un respirateur et d'avoir un système de réanimation qui vous maintient en vie. Donc en fait, et ben, il a fallu choisir. Et là aussi, les médecins sur place expliquent, oui, ils ont besoin de matériel, mais non, en fait, d'avoir du matériel à foison n'aurait pas forcément résolu le problème, parce que ce qui allait manquer, encore une fois, c'est le personnel. Et qu'on voit bien qu'il y a une problématique qui a plusieurs étages, et il ne suffit pas de dire, il n'y a qu'à ouvrir des lits, c'est, voilà, ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, c'est un médecin des Philippines qui expliquait qu'en plus aux Philippines il y a un timbré hein, au gouvernement, ouais. Vous savez, comme en fait il a dit pour résoudre le problème du Covid qui au départ n'existait pas d'après lui hein, quand même, faut être clair, après il s'est mis à exister, voilà, c'est comme ça les dictateurs, ils ont toujours des problèmes avec la réalité. Donc du coup il a dit bah en fait pour résoudre le problème on va ouvrir des lits. Alors il a fait construire des tentes à un moment donné par l'armée. Et sauf qu'il n'y avait pas de médecin ni d'infirmier, donc il a appelé des bonnes sœurs, il a appelé tout ça, enfin tous les gens qui volaient bons, tout ça, tout ce qu'ils voulaient. Enfin, c'est pas des médecins, hein, donc à un moment donné, on va pas regarder les gens couchés sur un lit et prier. Ils n'ont pas pu faire grand chose.
Oui, et puis même sans aller jusqu'à Duterte aux Philippines. Enfin, c'était une rhétorique qu'on avait beaucoup aussi entendu, enfin qu'on a pas mal entendu aussi en France, c'est-à-dire
il
suffit de foutre des lits. Ouais, alors en fait, enfin.
Ça pourrait résoudre une part du problème, mais ça n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut du matériel, il faut des gens.
C'est tout le truc. Et vu qu'en France, il y avait aussi le numerus clausus.
Ouais. C'est le cas dans plusieurs pays d'Europe.
Qui limite en fait le nombre de personnes,
de médecins,
etc. Ben, en fait, c'est ce que tu dis, quoi. C'est à plusieurs niveaux, en fait. Il y a un manque de matos, mais même si t'as le matos, mais que t'as pas de personnel, ton matos ne servira à rien.
Ouais. Donc, ça peut pas se résoudre en trois jours, quoi, en claquant des doigts.
Et rarement encore plus dans une crise mondiale, enfin de la pandémie, etc.
Ouais. Quoi, on rappelle qu'une pandémie, ça touche le monde entier.
Ben,
c'est d'où son nom. Et alors il y a aussi le problème, c'est qu'il y a eu aussi des pénuries et des difficultés au niveau mondial. Alors parfois c'est la pénurie de moyens de protection ou l'affaiblissement de l'aide internationale qui va impacter les choses. Les dons et autres ont du mal en fait à arriver dans des pays qui en avaient plus que besoin et qui en fait survivaient souvent, dont une partie de la population survivait du fait de ces dons. La famine qui frappe aujourd'hui le sud de Madagascar, par exemple, elle démontre terriblement cela, en fait. Les ONG sur place n'arrivent plus à faire venir des produits dont elles ont besoin, comme les pâtes alimentaires d'urgence ou les médicaments de perfusion pour réhydrater. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, c'est déjà un manque de dons, donc d'argent, parce que les dons à l'international des habitants des pays riches ayant diminué. Alors, diminuer vers l'international. Parce qu'en fait, il y a un paradoxe. On a dit, il n'y a jamais eu autant de dons, vous savez, pour en France, pour le Secours Populaire, les Restos du Cœur, des choses comme ça. Oui, mais sauf qu'en fait, les gens, ils ont parfois, souvent, redistribué. C'est-à-dire que ce qu'ils n'ont pas donné à l'international, ils l'ont donné en local. Mais ça ne marche pas, en fait. Parce que du coup, bah, ça fait déshabiller Paul pour habiller Jacques. Oui, c'est un peu le problème.
Et juste aussi, enfin pardon, mais c'est parce que tu parlais de Madagascar et de la famine du Sud, mais je crois me souvenir qu'il y a une famine au Sud, mais pas du tout au Nord, et au Nord, en fait, ils arrivent à bouffer, etc.
Ouais, c'est, là aussi, il y a une complexité politique sur place.
Oui, c'est ça, enfin, ça veut pas dire qu'il faut pas aider, mais, attention, c'est pas du tout mon propos,
mais c'est l'idée que...
C'est que t'as aussi des trucs hallucinants qui se passent dans un même territoire,
faut pas oublier que Madagascar, c'est grand. Les gens ont l'impression que c'est une île, donc c'est petit. En fait, Madagascar, c'est très grand. Vous regardez sur une carte, une vraie carte, pas un truc qui est dessiné. Voilà, Madagascar, c'est très long. Donc, c'est pas si simple que ça. Voilà. Donc il y a ça aussi. Puis les fondations et les entreprises, en fait, qui ont, elles, remis et réorienté les dons vers le Covid au détriment des autres causes. Pourquoi ? Parce que ça faisait bien. N'oubliez pas que souvent, quand les fondations ou les entreprises donnent, c'est pour l'image de l'entreprise ou de la fondation. Donc, du coup, ça faisait classe de donner pour le Covid. Mais aussi, en fait, il y a le manque de produits de base. Alors, ça, c'est un vrai problème, la pénurie dans des produits de base aujourd'hui. Alors, comme les productions ont été focalisées sur le Covid, les productions notamment médicamenteuses, et que les pays riches se sont rués sur les stocks, aujourd'hui en France, on a des stocks de perfusion pour 4, je crois, j'avais trouvé le chiffre, je crois que c'est pour 40 mois. Donc c'est juste assez hallucinant. C'est-à-dire qu'on a tellement en fait mis de côté des stocks qu'en fait, bah, en France, on a de quoi couvrir 40 mois, mais on n'a pas besoin de 40 mois, je veux dire, on aurait 12 mois d'avance, c'est très très bien. Donc on peut en fait envoyer des perfusions dans des zones qui en ont besoin, il n'y a pas besoin d'attendre quoi. Voilà. Et on a aussi un problème de stocks de médicaments au niveau mondial, parce que les pays riches se sont accaparés les stocks de médicaments de base, hein, notamment tout ce qui est contre la fièvre, des choses comme ça. Et en fait, bah, ces médicaments, ils sont extrêmement utiles dans des zones où il y a des famines, parce que paradoxalement, mais vous ne le savez peut-être pas, un enfant qui n'arrive pas à manger, il fait de la fièvre. Ouais. Et en fait, c'est une cause aggravante, parce que du coup, il se déshydrate, et ainsi de suite. Et en fait, il faut avoir des médicaments anti-fièvre dans les zones de famine, parce que ça permet de stabiliser plus rapidement les enfants quand on arrive à les réhydrater et à les nourrir. Et en fait, bah, cette pénurie en fait, entraîne des décès, de fait, parce que les enfants se déshydratent, tout simplement.
Bah oui, et puis ça rejoint de nouveau aussi cette lecture très riche pauvre,
ouais.
Et aussi aussi rattachée à ses frontières, etc. En fait,
bah, Covid ne fait que révéler le capitalisme.
Mais c'est, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est en fait, oui, c'est ça. C'est un révélateur, ouais, de choses qui existent depuis très longtemps. Ça ne veut pas dire que ça ne doit pas être changé, qu'on ne doit pas lutter pour les changer, parce que un des gros combats à la rigueur que pourrait prendre en bras le corps les progressistes et autres révolutionnaires, c'est justement quoi, l'instauration d'une santé, d'un accès à la santé internationale, et un vrai accès.
Ne va pas trop vite.
Pardon.
On en reparle dans quelques instants. Donc d'ailleurs, il faut bien être clair, hein, c'est que la pénurie de médicaments au niveau mondial aujourd'hui, elle est en fait plus, non pas du fait uniquement de la production, même s'il y a une part qui est liée à la production, mais elle est aussi liée au fait qu'en fait, les pays riches ont capté l'ensemble des... Mais on le voit avec les vaccins. Hein,
mais donc, oui, c'est ça.
Voilà, et les ONG disent, non mais il y a un moment donné, il faut arrêter les conneries. Et puis les pays, les militants sur place aussi disent, non mais attendez, vous êtes en train de nous laisser crever pendant que vous, ça commence à aller, vous voyez, c'est un peu le truc, quoi. Et d'ailleurs, on a déjà parlé de ça, hein, dans la causerie, dans le cadre de la vaccination, dans l'émission, sur la levée des brevets, notamment. Mais parfois, c'est aussi des mauvaises à tes souhaits. Pardon. Mais parfois, c'est aussi des mauvaises idées qui finissent par impacter. Face à la crise économique, par exemple, au Kenya, une taxe énorme a été mise sur les préservatifs pour récupérer de l'argent il y a un an, donc pendant en pleine crise Covid, parce que les caisses de l'État se cassaient la gueule, hein, parce que le Kenya, c'est pas très riche, et que quand l'économie s'arrête et que vous pouvez plus exporter, forcément, et que vous avez plus de tourisme, parce que les deux sont venus se croiser, l'argent a baissé. Alors, dans ce pays, il faut savoir que 90% des préservatifs utilisés sont des dons. Hein, c'est dans des bars, des hôtels, des pharmacies qui les mettent à disposition gratuitement. Alors pourquoi ? Parce que ça vient d'une grande politique qui avait été lancée au Kenya il y a une vingtaine d'années. Le Kenya étant historiquement l'un des pays les plus touchés par le VIH. Donc l'idée, c'était de pouvoir rendre accessibles et pratiques les protections contre le VIH. Donc suite à un différend entre l'État kényan et les donateurs et les ONG, où l'État a dit oui, mais en fait, ils ne nous payent pas ce qu'ils devraient nous payer, ainsi de suite. En réalité, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé, c'est juste que le Kenya et le gouvernement kényan plutôt a vu en fait l'opportunité de récupérer de l'argent, parce qu'il y avait de l'argent dans les ONG et que c'était des dons internationaux, et que donc l'idée, donc ils ont mis une taxe énorme sur les préservatifs, ce qui fait que maintenant quand le préservatif coûte quasiment 6 fois ce qu'il coûtait avant l'instauration de la taxe, qui est une aberration totale. Donc officiellement, c'est pour récupérer des impôts qui n'auraient pas payé les ONG, vous voyez. Mais dans les faits, il y a plusieurs observateurs, journalistes qui sur place estiment que cette taxe a été mise en place pour renflouer les caisses de l'État sur le dos des utilisateurs des dites ONG, en fait, hein, donc des gens qui se protègent et des ONG. Voilà. Donc résultat, alors que le pays aurait besoin de 455 millions de préservatifs par an, en fait aujourd'hui, il n'en est distribué plus que 1,6 million par mois. Donc, c'est-à-dire à un peu plus de, faut faire 12 fois 1,6, mais on est loin des 455 millions. Résultat, en fait, la prévalence du VIH chez les 15-25 ans, elle est 4 fois plus élevée qu'ailleurs dans la région. Et la plupart des prostituées sont aujourd'hui séropositives au Kenya. Et les grossesses précoces explosent, évidemment. Donc, on voit un petit peu que quand on veut jouer avec certains curseurs en pleine déjà pandémie de Covid, elle reste. Et puis, que du coup, ce que ça a entraîné, ce Covid, c'est entraîné aussi une chute économique qui a entraîné des décisions qui sont pas très très intelligentes, faut dire ce qui est. Une pandémie, ça a aussi des conséquences plus larges que prévu, c'est aussi ça le truc. On sait aujourd'hui que le Covid est responsable directement donc de la mort d'au moins 5 millions de personnes dans le monde. Alors, pour certains experts, notamment des épidémiologistes et des experts en santé publique, ce chiffre, il est plus proche de 15 millions que de 5 millions. Alors déjà parce qu'il y a 5 millions qui sont sûrement sous-estimés, hein, parce qu'il y a des pays comme le Brésil ou d'autres endroits, la Russie, on va pas le citer, mais quand même c'est un bel exemple, où en fait la transparence elle est pas de mise et que les moyens de comptage en fait sont limités. Alors c'est pas compliqué, hein, au Brésil depuis maintenant quasiment 5 mois, ils ont plus le droit de remonter de chiffre de mort, bon, voilà, dans les hôpitaux. Et en Russie en fait les hôpitaux sont pas tenus de tenir une comptabilité juste. Donc voilà.
Ou même la Chine, oui, avec, la Chine. On peut se souvenir de cet médecin ou de ce médecin
qui a disparu.
Qui a disparu, dont on n'a plus de nouvelles, qui était un peu le lanceur d'alerte au début du Covid. Ouais, c'est une médecin, je crois bien, ouais, effectivement. Ouais.
Alors on a aussi, parce que pour ces experts, il y a au moins 5 millions de personnes qui sont aussi mortes du fait du non-accès aux soins, c'est-à-dire de ce dont je parlais au-dessus. Donc en fait c'est une donnée qu'il faut intégrer, penser que l'économie ralentit, ok, mais en fait n'oublions pas de penser aussi que la santé est tout autant impactée et pas que dans les pays riches, hein, et j'irais même encore plus dans les pays pauvres en réalité, et que ça a des conséquences. Donc moi je vais revenir un petit peu sur ce qui se passe en ce moment. Alors sous nos latitudes, hein, donc là je vais parler de l'Europe, on peut être content d'avoir accès aux vaccins qui nous protègent des risques de maladies graves. Moi je connais des gens, ils étaient à un concert hier soir par exemple, et puis aujourd'hui ils sont allés se balader à Eurexpo, et en fait ils peuvent bouger. Il y a des pays où on peut plus bouger, parce qu'en fait là, on n'a pas de vaccin, on n'a rien. Donc voilà. Que ce soit pour les anciennes maladies, d'ailleurs comme pour le Covid, hein, je parle en général pour le vaccin et les vaccinations. Et d'ailleurs nous avons même la possibilité d'aller faire une troisième dose, hein, qui aura pour but d'aider la protection, mais aussi et surtout de diminuer la contamination. Parce que c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est éviter et diminuer les contaminations. En prime, hein, nous pouvons avoir des masques, du gel hydroalcoolique facilement, ce qui est très positif, hein, faut pas se mentir. Mais franchement, je ne comprends pas personnellement les gens qui ne font pas ce qu'il faut pour être tranquille et permettre la fin de cette pandémie. Tout simplement. J'ai un peu du mal, mais voilà. Mais on a quand même cette chance, on a l'attitude. Mais ça doit quand même nous poser question sur l'accès aux soins partout dans le monde. Et tu vois, tu en parlais tout à l'heure. Et là, comme nous l'avions déjà dit, c'est bien la levée des brevets et la réquisition des moyens de production dans l'urgence, comme dans la vie la plus normale, qui doit être maintenant pour moi incontournable, parce que le Covid démontre que la fracture et la rupture dans le domaine de la santé au niveau mondial, elle est énorme. Alors aujourd'hui, nous avons la démonstration, malheureusement grandeur nature, de ce que peut être une pandémie. Voilà, parce qu'on ne s'en rappelait pas vraiment. Maintenant, on voit. Et encore, avec un virus globalement dangereux, la mortalité élevée certes, mais relative par rapport à d'autres maladies. C'est-à-dire que, comme le faisait remarquer un épidémiologiste, heureusement qu'on n'a pas eu une pandémie d'Ebola. Parce que là, ça aurait été une catastrophe absolue. Voilà. Et il dit pas ça pour faire peur, il dit juste, on a entre guillemets la chance d'avoir un virus qui, même si vous finissez en réa aujourd'hui, dans les pays riches, vous pouvez globalement vous en sortir, vous avez une chance sur deux de vous en sortir, ce qui est assez élevé en fait, hein, pour une maladie qui vous emmène en réa. Donc cela doit nous pousser à repenser le système de santé à l'échelle du globe, et pas uniquement à l'échelle locale, pour garantir à chaque personne d'avoir accès aux besoins de la santé, donc d'avoir accès à des moyens de vie, et pas que de survie. Tout simplement. La surmortalité liée au Covid, hein, que ce soit directement ou indirectement, doit nous servir en fait à penser l'avenir et pas à penser P-E-N, réfléchir. Voilà. Et à réfléchir à comment partager au mieux les moyens de santé et les moyens de production de la santé. Voilà. Parce que je pense que si aujourd'hui on a des leçons à tirer, à sortir de tout ça, eh ben c'est bien justement d'en faire quelque chose de politique et pas uniquement quelque chose qui est lié à la santé. Parce que la santé, c'est aussi politique. Et il y a des enjeux politiques derrière qu'il ne faut pas minimiser. Voilà. C'était juste cela dont
mais
je voulais parler.
Mais c'est
ça.
Très très bien.
Donc, voilà.
Mais vu que j'ai déjà déblatéré plein de trucs, je ne vais peut-être pas en rajouter. Mais,
mais c'était intéressant parce que justement, ce qui moi m'interpelle, c'est quand même qu'aujourd'hui, on se rend compte que... Alors, je vais le dire comme ça, mais on est en pleine campagne présidentielle. Vous savez, en ce moment, alors on nous parle beaucoup de choses qui sont très secondaires à mes yeux, mais qui prennent beaucoup de place et qui malheureusement peuvent en plus heurter des gens. Parce qu'aujourd'hui, il y a un climat très détestable en France, notamment. Enfin, c'est en France la présidentielle, donc il y a un climat détestable avec une espèce de focalisation sur toute la population musulmane qui est juste à gerber. Enfin, faut quand même dire ce qui est. Mais tout ça, en fait, c'est des chiffons rouges et ça sert en fait à ne pas parler et à ne pas aller vers des sujets qui, à mon avis, sont beaucoup plus intéressants et beaucoup plus importants. C'est-à-dire, comment on veut vivre dans les 15-20 ans qui viennent, comment on voit la santé? Parce que la santé aujourd'hui est de plus en plus privatisée, elle va de plus en plus vers les riches pourront soigner, les pauvres ils démerderont. Et donc en fait tous ces sujets-là, en fait, il faudrait les mettre sur la table, il faudrait les mettre au niveau de la France, puis au niveau international. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi avoir le cran d'oser aller à l'encontre, en fait, l'espèce de doxa un petit peu qui est en train de se mettre en place, où il faudrait répondre à un certain Éric Zemmour en permanence, alors que je pense qu'il faut arrêter de lui répondre, il faut juste parler d'autre chose.
Oui, en même temps, je me dis, tous ceux qui...
Mais il faut qu'ils aient envie de parler d'autre chose.
Oui, là je voulais mais en dire. C'est ça.
C'est ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression que personne, aujourd'hui, n'a envie de venir et de dire, en fait, on a quand même aujourd'hui un problème majeur qui est une pandémie.
Oui.
Et pas en mode ça fait peur, mais comment, qu'est-ce qu'on a appris de cette pandémie ?
Ouais, c'est tout, c'est tout. Oui, mais en même temps, c'est que t'as des études, alors après, c'est des sondages, des études, etc., qui te disent en fait les sujets les plus importants pour les Français, c'est pas du tout ceux dont parlent les politicards. Sauf que les politicards, ils ont tout intérêt à penser et à faire penser que, soi-disant, les Français, là aussi, hein, c'est une grosse globalité, c'est un gros groupe, etc., mais auraient pour envie de discuter de l'immigration et tout ça, parce que finalement, si tu les prends tous, ils ont à peu près quasi tous participé à des gouvernements, etc., de près ou de loin.
Oui,
ils font tous partie de trucs qui sont... Ils ont
mais
tous...
j'attends, en fait, moi, j'attends non, rien d'autre.
Mais moi non plus.
C'est juste que je disais, il faudrait qu'on arrive à se saisir, nous, de ces questions-là et qu'on les mette sur la place publique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi, pour moi, aux gens, tout simplement, de porter les choses, parce que j'ai un peu l'impression qu'on se laisse tous entraîner, et moi y compris, on se laisse tous entraîner en fait dans une espèce de truc qui va bien, en fait, voilà, on a l'habitude, c'est une campagne présidentielle, donc la France va briller à droite, comme d'habitude, pendant la campagne présidentielle, puis à la fin, il y a quelqu'un qui va arriver un peu plus à gauche, pour dire, faut voter pour lui, ce qui est un peu plus à gauche que l'autre.
Enfin, en tout cas, il est moins d'extrême droite.
Non, mais voilà, non, mais je veux dire, c'est, vous voyez, c'est un petit peu le, on a l'habitude de ça, et moi, je me dis, il y a vraiment, c'est peut-être le moment, en fait, de saisir des sujets, et d'essayer de les porter. Alors, c'est pas simple, hein, j'ai pas dit ça non plus, mais je trouve que, voilà, on a quand même là, avec cette pandémie, une belle occasion de repenser notre rapport politique à la santé au niveau mondial et pas uniquement au niveau local.
Oui, mais ça nécessite aussi, donc, quand on parle de santé, ça parle aussi de science. Oui, quand on voit que à gauche et certaines extrêmes gauches, etc., aiment t'as plutôt sucer du religieux qui est dans le matérialisme et donc la science plutôt que le mysticisme et toutes ces conneries-là. Quand tu peux écrire des textes dénonçant la politique gouvernementale et de gestion autour des vaccins, demandant la levée des brevets, etc., tu vas avoir chez même des révolutionnaires, anarchistes, etc., qui vont te dire « Ouais, mais c'est Big Pharma !» Ouais, mais en fait, à un moment donné, la question c'est, en fait, avec ou sans Big Pharma, capitalisme, en fait, des maladies, il y en aura toujours.
Ouais,
c'est-à-dire que c'est pas Big Pharma qui crée. Je veux dire, il y a un truc. T'as l'impression que la nature sans le capitalisme est totalement bonne. Ben, non, en fait, franchement, non quoi. Et en fait, l'histoire de l'humanité, c'est presque une lutte contre la nature.
Ah, mais c'est que ça. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'en fait, notre histoire humaine n'est qu'une succession de luttes contre des épidémies, des maladies.
Oui.
Des...
Enfin, voilà, mais ce qui nécessite évidemment à progressistes, révolutionnaires, anarchistes, etc., de s'interroger aussi sur ces choses-là, sur la science, sur la médecine, sur le matérialisme, sur tout ça, parce que à un moment donné, juste croire qu'on fera tomber le capitalisme et d'un coup il y aura plus besoin de médicaments, il y aura plus besoin de plus rien, en fait ce sera le paradis, mais ça s'appelle une religion, en fait. Si vous attendez le paradis, allez dans les temples, allez prier, mais arrêtez de vous revendiquer révolutionnaire, etc. Parce que, il y a un moment donné, il faut aussi remettre des bases matérielles, sciences, etc. Et je veux dire, enfin, on l'a vu, mais même, enfin, sur un tout autre sujet, mais la première causerie qu'on a pu faire sur l'astronomie, un des premiers commentaires qu'on a eu, c'est, il y a bientôt une émission sur l'enculage de mouches. Tu dis, d'accord, donc même sur une radio rebelle, quand tu parles donc de science, parce que finalement, observer le ciel, etc., c'est de la science, et ben le premier commentaire que t'as, c'est oui, d'évaluer l'aspect scientifique, en fait.
Mais ça, on est d'accord, mais justement, ça fait partie, pour moi, des questions à remettre au centre.
C'est ça.
À retravailler.
Il va falloir faire chier un peu de monde, et même dans ce qu'on soi-disant, ce qui serait soi-disant notre camp. Mais bon, les camps, vous savez comment que c'est. Bon, peut-être ça. Ouais, on va s'arrêter là. Et on va passer à la musique. Hein.
Je sais pas si je peux le dire vu qu'on nous Adama, les miens toujours couronnés dans le royaume des morts. Beaucoup de têtes vont rouler sous le katana. Samouraï noir fait trembler le cœur d'Athéna. Ils veulent vider le verre à moitié plein. On veut quitter les fers, c'est notre réalité qu'on départ.
Je perds pas mon temps dans les discours, marre des cadres et ceux qui savent tout. Marre d'être une cible, visée de partout. Plus la patience, je trace mon parcours. On prendra la place, le sourire aux lèvres. On prendra le contrôle sans qu'on nous repère. On laissera pas de trace, attends la relève. On fait pas de pause, les dents rayent le parquet.
Je veux plus que ce que l'on me donne. Et tout ce que j'ai moi je n'ai pas volé. Ils veulent la version qui cogne. Je peux varier le doux et le corset.
On arrive à 11, composition parfaite. On connaît la défaite, mais pas de panique. On connaît la pratique, t'es mal à tactique. On arrive à 11, composition parfaite. On connaît la défaite, mais pas de panique. On connaît la pratique, t'es mal à tactique.
L'exemple, il est tout là-bas, bien loin de moi, tu vois. J'suis pas innocente, la queen en moi, elle rêve d'abattre les rois. Je rappe dans les temps, mais tu vois dehors, le chant des gyros me déconcentre. Je veux taper le tempo avec mes semelles et laver mes semelles, enlever le sang. Heureuse depuis que mes paroles sont des actes. Souvent je bloque dans ma tête ces désordres. Au milieu en défense en attaque. Personne ici va me donner des ordres. Je connais des gens que je préfère ignorer. Ils me dégoûtent, ils ont pas d'honneur. Et dis-moi pourquoi vouloir nous diviser. Et regarde l'équipe, y'a des plaques dans des peurs.
Je veux plus que tout ce que l'on me donne. Et tout ce que j'ai moi je n'ai pas volé. Ils veulent la version qui cogne. Je peux varier le dos et le corps.
On arrive à 11, composition parfaite. On connaît la défaite mais pas de panique. On connaît la pratique, t'es mal à tactique. On arrive à 11, composition parfaite. On connaît la défaite mais pas de panique. On connaît la pratique, t'es mal à tactique.
Ya, ya, on va tout péter, on s'en fout de vos pensées. Ya, ya, même avec du retard on va tout rattraper. Ya, ya, pas envie de bouger sur le trône à nos pieds. Ya, ya, trajectoire éclair, pas de vitre
tapée. Ils aiment quand ça tape, tape. Ils voulaient qu'on chante donc on rap, rap. On est comme des bébites, on fait papa. Si t'as pas capté la vibe, t'es un.
J'avoue, j'avoue, j'ai juste pas envie de les ouvrir. J'avoue, j'avoue, j'ai juste pas envie de les ouvrir.
On leur met une distance, est-ce qu'on peut dire que ça fait de nos laquais. On fait mouiller les pistes, ta petite et ta meuf nous respectent. Mes visions sont des chiffres donc, manger la preuve, voilà tout ce qu'il me reste à faire. Et j'ai promis au fiston, qu'on aura des balles jusqu'à plus savoir quoi faire.
Je veux plus que tout ce que l'on me donne. Et tout ce que j'ai moi je n'ai pas volé. Ils veulent la version qui cogne. Je peux varier le dos et le corps.
Composition parfaite. On connaît la défaite mais pas de panique. On connaît la pratique, t'es mal à tactique. On arrive à 11, composition parfaite. On connaît la défaite mais pas de panique. On connaît la pratique, t'es mal à tactique.
On arrive à 11, composition parfaite. On connaît la défaite mais pas de panique. On connaît la pratique, t'es mal à tactique. De panique, on connaît la pratique, t'es mal à tactique.
Ah là là. C'était bien, hein, sur la causerie au 102.2 sur radioquenu.org. Et c'était les rappeuses en liberté. Voilà, hein, c'est un collectif. Hein.
C'est ça.
Ça fait bizarre de le dire comme ça. Et du coup, c'était le titre tactique. Alors, T-A-K-T-I-K. Comme ça, si tu cherches, tu trouveras.
Ah ouais.
Voilà. Et si tu les cherches, elles, je pense que tu vas les trouver aussi.
Oui, mon avis, rappeuse en liberté suffira pour les trouver.
Voilà. Et donc, du coup, bah, Jean-Yves, on va continuer cette émission avec un sujet un peu plus léger, quoique.
Ouais, ce soir, j'avais envie de discuter de cul. Oh, il a dit le mot cul. Enfin bref. Donc, si Fab a abordé le sujet la semaine passée, ça faisait un moment que, me concernant, j'en avais pas parlé. Et aujourd'hui, c'est du binaire actif-passif dont j'ai envie de vous causer. Alors on peut peut-être d'ailleurs commencer par une définition de ces deux mots. Alors, passif serait celui ou passive, hein, serait celui ou celle qui est pénétrée, hein, en anal, buccal ou encore vaginal, et souvent entendu comme soumis ou soumise. Actif, j'allais dire active, non mais actif, serait celui qui pénètre et souvent entendu comme dirigeant, dominant ou encore viril.
Ah, il y a active aussi, hein,
oui,
parce que,
voilà, aussi.
Chez les lesbiennes notamment, oui. Il y a aussi cette distinguo-là.
Oui, c'est ça. Alors, pourquoi j'ai envie de vous parler de ça, évidemment, vous allez vous dire, mais il est fou lui ou quoi? Bah parce qu'en fait, pour qui fréquente les sites de rencontres, plus particulièrement de rencontres entre mecs, vous serez souvent amené à devoir vous définir, du moins souvent vous demandera, hein, de vous définir par l'un de ces deux mots. Alors évidemment, je sais bien que c'est pas réservé aux rencontres entre mecs, hein, mais c'est
peut-être un des rares lieux où c'est au moins verbalisé, en fait. Il y a vraiment cette question, quoi. T'es quoi ? T'es actif, passif ?
Ou versatile ?
Ou versatile.
Si tu fais les deux.
Ouais, enfin, c'est quand même plus souvent t'es actif ou passif, en fait. Hein, c'est un peu binaire. Parce qu'en vrai, évidemment, hein, ces positions, ces postures ne sont pas réservées aux rencontres, aux relations masculines. Qui, d'ailleurs, dans une relation entre mecs, n'a jamais entendu la question « Qui fait la femme ?» bah en fait, ce qui sous-entend, hein, de fait, bah, qu'il y aurait donc une position, hein, réservée aux femmes, celle d'être pénétrée, évidemment, parce que les hommes, les vrais de vrais bonhommes, ceux qui parlent comme ça, eux, pénètrent, dominent.
Ça existe, les hommes qui parlent comme ça ?
J'en sais rien. Mais il semblerait que là, hein, au moins, bah, c'est posé entre mecs. Mais ça n'est pas le cas dans une relation homme-femme, sûrement parce que les rôles, bah, couleraient de source. Bah ouais, bah, que pourrait donc faire une femme avec un mec, si ce n'est le sucer ou être pénétré ? Et que ferait donc un mec dans une relation avec une femme, si ce n'est pénétré ? Oui, je suis un peu ironique ce soir. Alors, le ou la passive...
Je suis fatigué, ça s'entend.
Ça s'entend, ouais.
Mais donnez pas tout. Peut-être que de l'autre côté du pot, certains pensaient à, tu vois, à des effets. Tu vois.
Il a bien travaillé son sujet.
En fait, non.
En profondeur.
C'est ça. Alors, le ou la passive, vraiment passive, on peut se poser la question. Alors, pour qui a déjà sucé, hein, pour qui a déjà accueilli un sexe dans son anus ou dans son vagin, saura dire que ces pratiques demandent tout, sauf de la passivité. Hein, la personne réceptrice, on peut dire, à tes souhaits, à ton Attends. Tour. La personne, on sent bien qu'on est en hiver. Hein. Pardon.
Non mais bref, c'est bizarre. C'est
alors, la personne réceptrice, on va l'appeler comme ça, reconnaît et gère ses signes d'excitation et de lubrification. D'ailleurs, le plus souvent, hein, c'est elle qui s'occupe du lubrifiant. Et pendant la phase de pénétration, il ou elle maîtrise ses muscles vaginaux ou rectaux. Pendant la pénétration, il et elle peut modifier sa position pour limiter ou même augmenter la profondeur des mouvements. Il et elle utilise des techniques pour faciliter le plaisir, en se masturbant, en alignant son clito sur la base du pénis, etc., etc. Et avec un périnée fonctionnel, on peut même accélérer ou décélérer les orgasmes. Et pareil, hein, évidemment, avec les jeux de bouche, de langue, lors d'une fellation. Hein. C'est... Enfin, c'est pas juste un trou, quoi, sinon... Je sais pas, prenez un tube de papier toilette et ça vous fera l'affaire, quoi. Mais non. Mais non, mais...
J'ai une connerie.
Garde-la, ta connerie. Garde-la. Donc, il s'agit évidemment, hein, pas là de dire que le pénétrant ne fait rien. Et il ne s'agit pas d'inverser les mots, d'inverser un binarisme. Parce que finalement, on resterait dans du binarisme, en fait. Hein. Bien sûr, pénétrer avec un pénis demande également des compétences. D'ailleurs, pas qu'avec un pénis. Hein. Des compétences pour... Alors là, quand même, comme obtenir et maintenir une érection, percevoir quelle intensité et quelle profondeur sont souhaitables, poser un préservatif, se retirer avec élégance, etc., etc. Mais posséder un pénis ou manipuler un god ne demande pas plus de savoir. En fait, ces organes, ces jouets ne sont pas plus complexes. Hein. Donc la responsabilité sexuelle ne vous revient pas naturellement. Hein. Il n'y a rien de tout ça. Mais alors pourquoi donc, on peut se poser la question, rester enfermé dans cette approche binaire des rapports entre deux personnes ? Alors je me suis dit, tiens, c'est peut-être parce qu'on est dans une société patriarcale.
Ah, tu t'es dit ça comme ça ? T'as un jour, tu t'es
une
dit...
découverte.
Peut-être ouais. C'est ça alors.
Ouais, non mais ouais. Parce que des fois je suis naïf.
Ah voilà, tu es devenu très naïf.
Des fois je suis très naïf. Ok, et que ça se retrouve encore une fois, comme je le disais, dans toutes les formes de relations, qu'elles soient hétéro, homo, et que ce soit entre deux mecs ou entre deux femmes en fait. Et je me suis dit encore une fois, oh non, j'arrête pas de me dire des trucs. Hein. C'est incroyable, j'ai beaucoup de discussions avec moi-même.
Mais ouais, c'est ce que j'ai, d'où te vient cette discussion avec toi-même ?
Parce que j'ai pas d'amis. Alors je parle tout seul. Oui, merde. Enfin bref. Donc, je me suis dit que bon, il faut que j'arrête avec ce que je me suis dit. Hein.
C'est clair. Ouais. Il faut que t'arrêtes ça immédiatement.
Déjà, en fait, il serait souhaitable de se défaire de certaines idées reçues et autres présupposés. Par exemple. On peut éprouver du plaisir de la jouissance sans pratiquer la pénétration. Et ça, qu'on soit homo ou hétéro. Hein.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Vraiment, hein, c'est possible. Et si on pratique la pénétration, pourquoi cela serait-il, selon la place que l'on occupe, synonyme finalement de domination ou de soumission? Et d'ailleurs, pourquoi la pénétration anale, par exemple, dans un couple hétéro ne devrait se faire, lorsqu'elle est pratiquée, évidemment, que dans un seul sens? Bah, on peut se poser la question quand même. Enfin, je veux dire, pourquoi? Enfin, oui, tout le monde est doté d'un orifice qui s'appelle anus.
Ouais, et puis tout le monde a des doigts. Enfin,
mais oui.
Sauf les manchots, mais normalement tout le monde a des doigts. Donc,
ouais. Mais si là on reste dans le domaine humain.
Ouais. Non, je parlais des gens qui n'avaient plus de bras.
Ah ouais. Donc, voilà. Bah ouais, un moignon, ça fait tout de suite quand même une grosse entrée.
Non, mais mais en fait, t'as raison sur le fait, puis on peut avoir des gones, on peut avoir des.
Mais bien
des
sûr,
comme ça,
mais
donc, c'est vrai, pourquoi finalement on limite ça?
C'est, tu vois,
si ce n'est une vraie volonté de rester dans un système patriarcal. Ah, c'est
tu vois,
ça.
Toi aussi, ouais, tu dis des trucs comme ça. Non, en fait.
C'est comme ça que tu te poses des questions.
Mais oui. D'ailleurs, en parlant de pratique anale, messieurs, n'oubliez pas que vous possédez un truc qui s'appelle prostate. Alors essayez, hein, ça s'appelle prostate. Dans le dictionnaire, vous le trouverez. Hein, vraiment, c'est facile. C'est à la lettre P. Et que sa stimulation est une sensation qui peut être découverte. D'ailleurs, j'en avais parlé dans la causerie 64. Ouais, ça remonte. Je ne comprends pas. C'était le 27 juillet 2014. Mais n'hésitez pas. C'est à ça que sert le blog, à blogs.radiocanu.org/. Non, je déconne. Mais voilà, n'hésitez pas. Hein, renseignez-vous sur ce qui fait votre anatomie.
Tu t'étais offert
une autopromo.
Un sujet sur le massage prostatique pour tes 32 ans, ce qui était quand même bien.
Oui, hein, ça se fait comme il se doit, n'est-ce pas? Et doigt D-O-I-G-T. Non, allez, on se calme,
on y va,
c'est bientôt fini. Alors, pourquoi une relation entre hommes, d'ailleurs, devrait passer par la sodomie? Il est d'ailleurs amusant quand même d'observer qu'entre les idées reçues et la réalité, il y a des vrais gouffres. Une connaissance m'a un jour dit, quand elle fréquente des sites de rencontres entre hommes, que souvent vient cette question justement. T'es actif ou t'es passif? Et cette connaissance dit souvent bah écoute, je me définis pas comme ça. Et la réponse en face, c'est ah ouais, non mais moi non plus en fait. Et alors là, t'es vraiment... Et cette connaissance, c'est vraiment à se dire mais pourquoi en fait, alors tu commences finalement ton échange par me poser cette question, si toi-même ça n'a pas de résonance? Donc il y a vraiment, je pense, quelque chose de répétitif en fait, qu'on n'interroge pas en fait. Et aussi, dans toutes ces idées reçues et autres présupposés qu'on peut peut-être défaire, c'est un homme hétéro a le droit d'avoir envie aussi qu'on lui titille la rondelle. Oui, c'est joliment dit, n'est-ce pas? Promis, ça ne fera pas de lui un homo. Ah ouais, d'ailleurs, parce que en fait, ça sous-entendrait qu'être homo, en fait, c'est une honte. Donc non, en fait. Hein,
c'est comme être femme, c'est pas une honte.
C'est exactement c'est pareil, ça. Hein. C'est juste, tu dis, non, mais en fait, voilà, mais ça fait partie de toutes ces choses quand même qui sont...
Intégrées.
Oui, intégrées. Et en plus, je dis même pas que toutes les personnes qui pourraient avoir ça en inconscience sont tous des homophobes de la manif pour tous. Hein. Je pense vraiment pas. Mais il y a des choses comme ça qu'on a intégrées sans réinterroger, et c'est peut-être ça vers quoi on devrait aller, c'est cette interrogation des choses. Bref, je pourrais encore évidemment continuer longtemps comme ça, mais je suis fatigué, il est dimanche soir et puis il est déjà très tard. Mais vous aurez compris l'idée qu'il n'y a rien de figé, en fait, de naturel, ou je sais quel autre mot, qui signifierait qu'il y a une logique qui justifierait tous ces fonctionnements binaires. Non, il n'y a rien qui justifie tout ça. En fait, il est plus que souhaitable, lorsqu'on rencontre quelqu'un, quelqu'une, pour un plan cul ou pour une relation sur du plus long terme, qu'on échange en fait sur nos envies, sur nos pratiques, sur ce qui nous fait kiffer, sur ce qui nous branche, sur ce qui nous branche pas, sur ce qu'on aimerait découvrir. Et je dis en fait quand on rencontre quelqu'un, mais aussi dans une relation déjà établi en fait.
Les désirs et les envies évoluent avec les années.
Merci.
Donc voilà.
C'est ça. Donc, pourquoi se limiter voilà, il faut justement discuter, poser les choses et revenir dessus quand on a envie en fait. Donc voilà. Et Et donc, en fait, faire ça, ça nécessite en fait de parler de nous, en fait, individuellement, en partant de nous, et non pas de ce qu'on devrait faire parce que je sais pas quoi aurait dicté une manière de baiser, une manière de prendre son pied. Et en fait, on peut aussi, et il y a tout intérêt à le faire, faire tout ça dans une approche d'égal à égal, sans hiérarchie. Qui que ce soit discute, que ce soit entre un homme et une femme, entre deux mecs, entre deux meufs, en fait, il y a nos individualités, en fait. Donc, c'est ce que je disais enfin, quand même, c'est d'une certaine manière, laissons exister, en fait, nos individualités, plutôt que des généralités présupposées qui découleraient de nos genres, de nos sexualités, etc., etc. Et jouons, jouissons. Et d'ailleurs, c'est un autre sujet que j'ai pu faire aussi, se découvrir et se connaître, etc., ça passe aussi par quelque chose qu'on appelle la masturbation. Alors, j'aurais pu finir par jouons, jouissons et masturbons-nous, en solo ou à plusieurs, mais c'est aussi par ces manières-là qu'on se découvre, qu'on découvre ce qui nous fait kiffer, une caresse, une zone érogène, etc. Fab, la semaine dernière, tu nous parlais de
l'arrière. J'ai eu peur quand t'as commencé ta phrase.
De l'arrière du genou. Non, mais oui. Et ça, c'est aussi par des petites pratiques, oui, des explorations. Fait. Des fois, en solo, où d'un coup, on va avoir une envie de se caresser à un endroit qu'on n'oserait peut-être pas forcément dire, ou qu'on n'oserait pas, ou que l'autre n'a pas pensé à caresser. Go. Et puis, si vous la découvrez, échangez. Enfin voilà, donc je pense que c'est aussi il faut continuer d'interroger ces choses-là et arrêter plutôt de reproduire des choses qui finalement n'ont même pas de sens. Encore une fois, comme cette connaissance me disait, si toutes ces choses-là se disent sur des sites de rencontres, c'est-à-dire qu'on te demande si tu es actif ou passif, alors que c'est pas un... Pourquoi s'emmerder à poser cette question, en fait? Partons peut-être plutôt... Il y en a qui rigolent, je ne sais pas pourquoi.
Non, parce que j'étais en train de me dire que non seulement tu te parles à toi-même, mais en plus tu t'appelles la connaissance. C'est quand même pas mal.
Mais non, c'est pas moi, c'est une connaissance.
Et j'avoue que ça m'a fait rire. Voilà, pardon.
Mais non, mais et vraiment, moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment toujours halluciner. Cette reproduction de choses qui n'ont pas de sens pour vous, arrêtez de les reproduire. Parce que, en fait, c'est pas... Il faut arrêter avec le système, etc. On a aussi notre part, évidemment, qui est un système global, etc. Mais merde, nos individualités, elles peuvent aussi changer les choses. Parce que des individualités qui existent, etc., ça fait tomber une pensée globale qui ne ressemble à personne, mais qui édicte des règles qui ne touchent personne, en fait.
Alors, c'est intéressant ce que tu dis, mais c'est très intéressant parce que ça rappelle une phrase que j'ai entendue il y a 2-3 jours à la radio.
Par une connaissance, ça ?
Non, c'était... Alors, je me rappelle plus la radio, je suis désolé, j'aurais pu le retrouver, mais... En fait, il y avait une femme qui est psychologue du sexe, sexologue, je sais pas comment, voilà, qui disait, en fait, il faut pas oublier une chose, c'est que ce qui se passe dans un espace clos entre deux personnes consentantes ne regarde que les deux personnes. Donc, en fait, arrêtez de penser que toute la société vous regarde quand vous faites quelque chose, parce qu'en fait, la société, elle est en dehors de vos murs, donc voilà, si vous êtes fermés ensemble, normalement, personne vous voit. Après, l'exhibition peut être un trip, mais c'est un autre problème. En tout cas, voilà. Elle disait, il faut se rappeler de ça, en fait. La première chose qu'il faut se dire, c'est quand on est à deux, quand on est consentant, quand il y a un rapport de confiance entre deux personnes, ou plus, hein, d'ailleurs, mais bon, prenez l'exemple de deux. Elle disait, en fait, ce que vous allez pratiquer, vous regarde vous. Et vous n'êtes pas obligé ni d'en parler aux autres, ni, voilà. Donc après, faites ce qui vous plaît, plutôt que de faire ce qu'on vous impose ou ce qu'on vous a appris. Et ça rejoint ton sujet, en fait, en disant, oui, effectivement, il y a un système patriarcal, il y a tout ça, on ne le nie pas, mais on a aussi nos individualités, on a aussi notre possibilité de dépasser ce système-là, pas tout simplement parce que ce qu'on pratique, nous, on n'est pas, c'est à nous, ça nous appartient, et donc du coup, oui, effectivement, je te rejoins largement sur l'idée de dire, on peut faire autrement, sans que la société complète vous juge, parce que vous n'êtes pas obligé de leur dire ce que vous faites, voilà.
Oui.
Vous pouvez aussi leur dire, c'est un choix après.
Oui, c'est... Voilà. Et puis le cul est un sujet qui devrait, en tout cas, être amené comme un sujet comme un autre. Mais on en parlait, je ne sais plus si c'était pendant l'émission ou ailleurs. Mais il manque aussi, je pense, d'espace, en fait, de discussion sur ces sujets-là, en fait. C'est-à-dire qu'à l'école, on parle du cul, mais comme le système de reproduction ou, attention, les IST, sauf qu'en fait, on ne parle pas de plaisir, etc., etc.
Ah, le clitoris vient d'arriver à l'école, alors imagine un peu.
En 2021, alléluia. Et donc, non mais oui.
Chaque chose en son temps.
Donc c'est vraiment, c'est aussi ça, en fait, je pense, qu'il manque, mais voilà, enfin, bref, je ne sais pas si ça vous aura aidé à,
non, mais c'est des bons questions, c'est des
développer
vraies questions.
La réflexion, mais je pense qu'on a aussi nos rôles à jouer, alors, nos petites échelles, mais ouais. je pense qu'un système tient parce que personne ne le remet en question. Et à partir du moment où on le remet
c'est
en question...
C'est valable dans plein de domaines.
Mais bien sûr, collectivement et individuellement, là, les choses peuvent commencer à tomber. Voilà, si tu n'as rien à rajouter, si vous n'avez rien à rajouter...
Mais je veux bien qu'on mette de la musique.
Eh bien, go.
Je suis la baronne, je suis crié ton daron, je suis kiffé ta daronne, bitch. Je suis la trappe en main, donc t'es mon fils. Numéro 1, t'es numéro 10. Trop de flots dans ma tête, on est 6. Crois pas qu'on est pisse, j'ai cramé ton fils. Bitch, bitch, bitch. Mon dieu, je suis condamné à mourir riche.
Et si ça a job, ça flex. De Brésil ou à Paris.
T'as la rage comme mon ex.
Et si ça a job, ça flex.
De Paris à Libreville. Ici, on compte les sexes. Vie, on envoie des flammes, on est pyro. Comme chez Kinaria, qu'on brûle tout. Bars, on en a des kilos. Ça fait pas tout, sous-côté mais je suis dans le top 10. J'ai ce que je vaux, j'ai les capacités. Font ami-ami sur le Netflix. Des bars chinois quand il faut te citer. J'ai pas besoin qu'ils me plébiscitent. J'ai qui et qui, de qui même me suivent. Tu me verras jamais dans des baisers. Jamais toujours en team, toujours en équipe. Derrière mon dos, sont là comme le dossard. Je dois toujours en faire plus. On fout la merde, ton paradis sur Mars. Comme ça qu'on exécute. Je suis dans le rap quand je veux, je flex. Passe partout comme le 4-4. La tête est haute, pas de complexe. Vos rappeurs dans le 4-4 sont mangés. J'arrive avec la fougue, le flow, ils sont en danger. L'avenir sera radieux, si tout se passe bien, on passe en radio.
J'suis dans la cuisine, je whip, j'ai le feu et la technique, oh, ah,
that's right.
Je rebondis sur le kick. Quand on déboule en équipe, j'ai les voix tous qui paniquent, oh, ah. Va poser, je veux que tu flippes,
oh. Ici ça drip, ça flex, oh. De Brésil ou à Paris,
oh.
T'as la rage comme mon ex,
oh. Oh, 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 oh.
Ici ça drip, ça flex,
oh. De Paris à Libreville,
oh. Sécher mes larmes, et au bal, il va le faire rire. Nice moulalise, mon plaisir.
Ici ça drip, ça flex,
oh. De Brésil ou à Paris,
oh. T'as la rage comme mon ex,
oh. Oh, oh, oh. Ici ça drip, ça flex,
oh. De Paris à Libreville,
oh.
Ici on compte ses fesses,
oh. Oh, 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 oh.
Et vous êtes toujours... Oui, c'est bon, on m'entend.
Ah oui, on m'entend. Bonsoir. On m'entend que toi ce soir.
Oh, ça va. Arrêtez donc d'être si désagréable. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu, évidemment, de la causerie, comme tous les dimanches, de 22h à 23h. Et on vient de s'écouter, un titre de Chila, Bianca Costa. Clara, elle rit. Elle se fout de ma gueule.
Là, si tu es un peu fatiguée, ça s'entend là. Vraiment.
Pardon.
Alors, attends, on recommence. Donc, c'était.
C'est un titre de Chila, Bianca Costa, Davinor, Le Juice et Vicky R. Ouais. Un collectif de rappeuses qui remet les pendules à l'heure, t'as vu ou quoi? Et ben voilà, on va continuer et terminer avec des brèves.
Oui, tout à fait. Et c'est toi qui commence.
Ah bah oui, c'est moi qui commence. Le centre LGBTI de Lyon nous invite à participer à la marche du 1er décembre pour commémorer la journée mondiale de lutte contre le sida. comme tous les ans, évidemment, et comme tous les ans, enfin en tout cas les autres années, on est très 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 peu. Donc ça serait bien que là aussi.
Et là, on va vous le dire, moi je pourrais pas y être, et ça me rend triste de pouvoir pareil, pas pouvoir y être. Ouais.
Enfin bref, ouais. Pardon, on s'en fout, mais.
Non, mais c'est voilà, pour mais... dire, moi c'est quelque chose auquel je tiens.
Donc évidemment, enfin là encore une fois, ça fait partie des causes, qui sont vraiment trop abandonnées par beaucoup de gens qui se désignent progressistes ou révolutionnaires ou autres.
C'est ce qu'on appelait avant la Saint-Sida.
C'est ça.
Avec un peu d'ironie.
Donc le rendez-vous est donné, donc c'est mercredi 1er décembre, 18h, c'est rassemblement place Bellecour, puis on part en manif en fait jusqu'au terreau. C'est pas très long, hein, vous imaginez bien. Et là-bas, en fait, à la place des terreaux, il y aura une commémoration, etc., etc. Des petits discours certainement aussi. Et la soirée continuera, à partir de 20h au centre LGBTI. Et les bénéfices seront pour le site d'action. Et je rappelle que le centre LGBTI, c'est 19 rue des Capucins dans le 1er arrondissement de Lyon. Donc le 1er décembre.
Voilà. Et le jeudi 2 décembre à 19h à l'Amicale du Futur, 31 rue de Sébastien Griffe dans le 7e, il y a une lecture présentation d'un livre qui m'intrigue, je dois le dire. Alors je ne pourrais pas être à la lecture présentation, mais en tout cas moi ça m'intrigue beaucoup. Et ce livre s'appelle Barge. Voilà. Et donc c'est son auteur qui sera là. Donc Barge, c'est un petit livre où s'entrechoc, extrait de journal intime, dossier médical et lettres de proches, et il tente de comprendre ce qui se joue quand on part en vrille à 20 ans et que l'épopée mystico-politique se termine en psychiatrie. Barge, c'est aussi le récit d'un long cheminement pour apaiser le grand n'importe quoi, faire son deuil du délire et renouer avec le commun. Mais Barge, c'est avant tout un prétexte pour parler ensemble de la folie et du sort qu'on lui réserve. Voilà. Et moi, ça me donne vraiment envie. Voilà, mais je ne pourrais pas y être. Mais en tout cas, moi, je vous invite vraiment à y aller. Donc, c'est le jeudi 2 décembre à 19h à l'Amicale du Futur, 31 rue Sébastien Griffe, dans le 7e. Et voilà, c'est juste... j'avais envie de vous parler de ça, parce que ça me tentez bien à titre personnel.
Très bien. Eh bien, je crois qu'on arrive au bout.
Oui. Et si on va prendre le train pour partir, je crois, c'est ça?
On va partir en voyage pour se quitter.
Ouais.
Et c'est Clara qui nous propose d'embarquer dans ce train, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça.
Elle nous regarde.
C'est un titre de
Attends. Amis auditrices et auditeurs, vous n'avez pas le regard de Clara à ce moment-là. Mais nous, là, d'un seul coup, on s'est dit, on a dû dire une connerie. Mais en fait, non. Donc voilà.
Moi, je pense que je ne suis pas le seul fatigué. Mais ça, après.
C'était très étrange. On s'est tous demandé si on n'avait pas dit. Voilà. Bon, donc, attends. Donc, on fait comme dans les grandes radios où ils font des coupures. On l'a refait. Et donc, pour partir, nous allons donc prendre le train.
Oui, tout à fait. Avec Thilassine.
Elle se réveille.
Donc voilà. Donc c'est Thilassine avec le titre Train.
C'est ça.
C'est ça.
Voilà. Issu de son album
Rose. Non.
Transsibérienne, je crois.
Ah,
Transsibérienne, non.
Ouais, bon.
Enfin bref, un des albums de Thilassine, quoi. Ouais. Alors promis, on essaie la semaine prochaine d'être moins fatigué.
Promis.
On essaye. On fait ce qu'on peut, mais on espère que l'écoute était quand même pas désagréable pour vous, parce que c'est quand même ça l'idée. Que...
Et d'ailleurs, merci à toutes et tous d'être encore là et de nous écouter, parce que sinon on arrêterait la radio.
Arrête de parler, parce que sinon ils vont nous écouter.
Allez, c'est parti.
C'est ça. On vous dit à la semaine prochaine, 22h, 23h, toujours à l'antenne de Radio Canu. Ouais. Et d'ici là, bon courage et n'hésitez pas à écouter plein d'autres émissions très bonnes et aussi. Les splendides bandes continues de Radio Canu qui vous permettent d'avoir une playlist absolument
un big
full
up
dingue.
À l'équipe des bandes continues.
C'est ça. Allez, on se quitte là parce que Clara, elle veut nous faire embarquer dans le train. On y go.
Allez, ciao, des bisous.
Ciao, bisous.
Ciao.